J'aimerais peindre avec cette même insouciance, sans me demander ce que fait mon pinceau, s'il est mu par la maîtrise ou par l'aléatoire, s'il est là pour me distraire du monde ou pour le rencontrer, l'embrasser ou pour m'en séparer.
Il y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes, ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Et pourtant ils existent, nous dit Léo Ferré dans cette chanson Les Anarchistes. Et pourtant ils existent, écrit Thierry Froget en titre de son dernier roman, paru l'été dernier aux éditions Actes Sud. Bonjour Thierry Froget.
Bonjour.
Et bonjour à tous, bienvenue pour cette Lecture en tête à tête, quatrième émission imaginée par l'association Lecture en tête, pour célébrer ensemble, tout au long de la saison et grâce au concours de l'autre radio, les 30 ans de l'association. Alors cette phrase, Thierry Froget, cette phrase par laquelle j'ai décidé d'ouvrir cette émission, cette phrase où l'un de vos personnages, un peintre, se questionne sur la portée et l'ambition de ses propres gestes, semble bien au cœur d'une réflexion de fond de tous vos personnages, et peut-être même sur le geste d'écrire lui-même.
Oui, c'est possible. Effectivement, là, c'est un peintre, Laureano Barao, ouais, qui effectivement se pose, qui peint des citrons et se pose la question du rapport qu'il peut entretenir, enfin que le citron peut entretenir avec sa peinture. Et c'est des questions qu'on se pose forcément quand on écrit aussi, c'est-à-dire le rapport de l'écriture, de la langue avec le réel ou avec l'histoire en l'occurrence.
Mmh. Voilà, et en être ou pas. Justement, et ça renvoie en même temps à ces questionnements vis-à-vis des anarchistes, vis-à-vis des positionnements sur l'engagement que peuvent avoir certains personnages dans leur histoire familiale. La question justement des anarchistes, vous avez choisi justement cette chanson de Léo Ferré, et donc il nous renvoie donc au titre. Et on voit que de roman en roman, le politique est très présent en tant que représentation. Pourtant, vos livres ne sont pas, en tout cas à mon sens, des livres politiques, ils ne défendent aucune thèse, mais pourtant, il y a cette représentation politique omniprésente. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui vous fait parler dans la question du politique ?
Je crois que la question politique m'a toujours intéressé depuis l'adolescence. Et puis, effectivement, à travers les trois romans, on suit une famille, Jacques-Pierre, Ariane, son épouse, et Rose, leur enfant. Et les trois romans posent la question aussi des différentes formes que peut prendre l'engagement politique, qui conduit très souvent, hélas, sur une forme de au mieux de demi-échec. Et j'ai toujours vu une dimension un peu mélancolique aussi dans l'engagement politique. Et puis j'appartiens à une génération qui arrive un peu après la bataille. Et c'est une des questions que pose aussi ce roman, c'est celle de la transmission des engagements d'une génération à l'autre. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants ou à nos petits-enfants ? Et peut-être plus encore, qu'est-ce qu'on peut faire de l'engagement de nos parents ou de nos grands-parents. Et c'est ce qui est un peu raconté aussi dans ce roman, je pense. Et quand je dis après la bataille, c'est-à-dire que je suis né au milieu des années 70, année politique, s'il en est, années 70, mais j'étais enfant. Et j'ai accompagné une forme aussi j'ai accompagné ce mouvement de dépolitisation, de la fin, de ce qu'on appelle aussi de la fin des grands systèmes et des utopies. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se débrouille avec ça maintenant ? Sans pour autant dire que tout est fini et qu'il n'y a plus rien à faire, mais quelles autres formes peuvent se développer. Et ça, c'est vraiment une question, une inquiétude qui m'habite, oui.
Oui, ça c'est une question par rapport à l'avenir, mais c'est vrai que vous faites remonter toute cette présence de politique sur les grandes utopies, au moins jusqu'à la Révolution, qui est un thème qui revient, qui était déjà dans le titre du premier roman, mais même au-delà du titre, en tant que personnage, il y avait Danton qui était là, et c'est une... Comment dire, par la suite, donc, le premier communisme originel est aussi extrêmement présent. Là, il y a la guerre d'Espagne qui est là, donc il y a les anarchistes. Donc, ça remonte très loin. Il y a une réflexion aussi historique par rapport à ça. Quand vous parliez de transmission, en fait, c'est ça.
Oui, alors c'est vrai que le premier roman traitait de la Révolution française. C'est là, quand même, que pas mal de choses commencent, il me semble. Et effectivement, de roman en roman, cette réflexion politique s'attache à d'autres moments de l'histoire. Vous avez cité la guerre d'Espagne dans celui-ci, évidemment, mais aussi les années 60-70, qu'on retrouve dans le premier et dans celui-ci. Je pense que peut-être d'autres romans pourraient s'intéresser à des époques du 19e siècle, comme la Commune, par exemple. Il y a quand même des fils qu'on peut tresser de la Révolution française jusqu'à nos jours.
Je remarquais simplement qu'il y avait une forme de tropisme par rapport à certaines époques clés chez vous qui semblent vous inspirer davantage, notamment celui de la Révolution.
Oui, c'est vraiment la Révolution qui est le foyer, le berceau de toute ma réflexion politique. Je suis loin d'être un historien, même si je m'intéresse à l'histoire. Mais c'est vrai que c'est le moment qui m'a toujours le plus intéressé, le plus fasciné. Et je suis toujours assez frappé de voir comment ça dure 4 ou 5 ans, la Révolution française. Et il y a des milliers de choses qui s'inventent, qui se ratent, qui se jouent. Les acteurs qui sont amis et 3 semaines après ils se guillotinent les uns les autres. Enfin, c'est d'une densité assez incroyable. Et d'ailleurs, je me suis toujours posé la question pourquoi il n'y a pas eu plus d'œuvres littéraires et d'œuvres cinématographiques sur la Révolution française, qui est quand même un creuset, il me semble, pour notre pays et plus largement. On aurait pu presque imaginer un genre comme le western aux États-Unis.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Oui.
Mais parce qu'il y a tellement de personnages, tellement d'actions, de drames, de tragédies. Je sais que la mode est aux séries actuellement. J'appelle tous les scénaristes à imaginer parce que alors c'est vrai que c'est complexe comme moment, mais il n'y a pas eu de grands chefs-d'œuvre au cinéma, par exemple, et en littérature, les grands livres sur la Révolution, il y a Victor Hugo, 93, il y a plus récemment Les Onze de Michon.
De Pierre Michon.
Un ou deux romans de Balzac, Anatole France, mais finalement, Robert Marjorie, quatre gros livres sur la Révolution française. Mais pas tant que ça. Et on pourrait se... la période napoléonienne, par exemple, inspire beaucoup plus, visiblement. Alors, je ne sais pas.
Oui, je ne sais pas s'il faut en tirer des conclusions.
S'il faut en tirer des conclusions. Ouais. Mais et je me retiens souvent de revenir encore sur de futurs projets sur la Révolution française, parce que ça me semble assez inépuisable.
Bon, écoutez, en tout cas, je vous le souhaite.
Et juste peut-être pour aussi compléter, oui. Ce qui m'intéressait dans le premier roman sur la Révolution française, c'était à la fois la Révolution française, 1789 et 1793, mais aussi deux siècles après, ce qu'on en a fait au moment du bicentenaire de la Révolution française. Quoi.
Oui, parce que comme vous le disiez, ce ne sont pas d'ailleurs des romans historiques, ils ne traitent pas d'ailleurs du tout que de personnages politiques. Il y a d'autres figures récurrentes de romans sont... Les artistes, alors là, pour le coup, vous parliez du premier, donc là, c'était Jean-Luc Godard. Il y en a plein d'autres, il y a Wagner, voilà, on trouve plein d'artistes, notamment du cinéma, mais également de la peinture, avec Courbet. Donc des personnages réels qui viennent croiser des personnages fictifs. Ces personnages sont pris plutôt sous la forme d'une uchronie. Vous réinventez l'histoire, simplement ces personnages vous inspirent. On comprend que ces personnes vous inspirent parce que vous êtes artiste, non seulement écrivain, mais vous êtes également artiste plasticien. Vous avez une formation d'artiste plasticien. Au-delà de cette évidence du fait que vous êtes inspiré par tous ces personnages-là qui vous ont formé, je voulais savoir comment, là plutôt dans votre démarche d'écriture, comment on en arrive justement à cette forme finalement immatérielle qui est l'écriture quand on est plasticien. Comment ça s'est construit cette formation ?
Ben, j'ai toujours eu les deux activités un peu en parallèle. C'est-à-dire que j'écris depuis comme tout le monde. J'ai commencé à écrire des petits trucs très mauvais à l'adolescence. Et puis j'ai continué parallèlement mon travail de plasticien quand j'étais étudiant en Beaux-Arts. Et j'intégrais parfois du texte aussi dans mon travail de plasticien. Donc il y avait vraiment les deux. Et puis après, j'ai plus développé un travail d'exposition, tout en continuant à écrire, mais vraiment en dilettante. J'en avais besoin. Ça m'arrive de dire, quand j'étais vraiment pas satisfait de ce que j'écrivais, j'allais dans l'atelier. Et quand je trouvais que c'était aussi épouvantable ce que je faisais dans l'atelier, je retournais à mon ordinateur pour écrire. Donc c'était une espèce d'équilibre comme ça qui se jouait, mais d'équilibre dans la déception en partie. et puis je cherchais pas forcément à envisager la publication. Et donc j'ai publié finalement assez tardivement, à un âge relativement avancé, on peut le dire, puisque mon premier livre publié était Retard légendaire de la photographie.
Un recueil de poésie.
En 2013. Donc j'avais 40 ans pile.
D'accord.
Voilà. Et c'est vrai que cette publication-là qui m'a autorisé à continuer à écrire et à me lancer dans la fiction, en me disant peut-être que c'est pas si inintéressant que ça. Et je crois aussi autre chose, c'est que j'ai toujours beaucoup lu, j'ai une passion pour la littérature et pour toute forme de littérature, et il y a des figures d'écrivains qui me paralysaient un peu aussi. J'avais tellement l'impression que ce que je faisais était très loin des choses que j'aimais, que je crois que ça m'a pendant longtemps un peu paralysé. Oui.
D'accord.
Et puis la publication du recueil de poésie chez Flammarion, là, m'a un peu libéré, donc j'ai pu m'engager dans le premier projet de fiction qui était Sauf qui peut la Révolution. Et puis après, il y a eu là, les choses se sont un peu inversées. Peu à peu, j'étais de moins en moins dans l'atelier. Et puis, j'ai quasiment cessé de produire des formes plastiques là, depuis une petite dizaine d'années. Quoi. Donc ça reste toujours présent, ça pourra peut-être revenir. Et puis c'est aussi une question de temps. Quoi. Enfin, j'avais pas envie, je peux pas me disperser non plus. Donc là, c'est vraiment l'écriture qui m'occupe.
Cela dit, la dimension plastique, elle se ressent de toute façon dans votre écriture. On voit bien qu'il y a un pont réel sur la réflexion formelle, la conduite narrative. Pour démarrer cet entretien, je suis parti comme ça de figures récurrentes. Il y en a d'autres sur lesquelles on reviendra. Mais par contre, on voit que sur le plan du dispositif, vous tenez à ce que chaque roman réponde à un dispositif vraiment particulier. Ça vient vraiment d'un regard de plasticien.
Oui, je pense que ce que je garde de ma pratique de plasticien, il y a effectivement ce goût du dispositif. Et du montage aussi, parce
alors que ça, on voit bien la référence à Godard au départ. Mais
dans mon travail de plasticien, c'était aussi quand même beaucoup d'images en mouvement et de vidéos ou de cinéma.
D'accord.
Donc j'ai aussi un peu ce regard-là et une attention portée à l'organisation d'un texte. en fiction, d'ailleurs même en poésie, comment créer des sections, une question de rythme, de vitesse, de moments plus lents, de le premier qui est plutôt un montage alterné avec trois récits différents. Le second est vraiment dans le fondu, presque le fondu enchaîné comme au cinéma. Là, on est dans une forme plus musicale, plus polyphonique, un roman choral, on pourrait dire. Chaque projet aussi appelle une organisation, une forme, je pense. Et ça permet aussi d'avoir l'impression, à tort ou à raison, de ne pas écrire le même livre constamment. Et puis, dans ce que je garde aussi de ma pratique de plasticien, c'est effectivement le lien aux images. Les deux premiers livres étaient les trois premiers livres, parce que Retard légendaire de la photographie, ça parle aussi de photographie.
Oui, oui. Donc, et pas que, il y a aussi ce rapport à la peinture, aussi, à la notamment peinture. Les fameux repentirs qu'il y a dans ce recueil.
La peinture, la photographie, le cinéma. Et puis, pour ceux qui connaissaient un peu ce que je faisais en tant que plasticien, il y a des motifs récurrents aussi. La question du fantôme, du palimpseste, de la projection. Se retrouve aussi. Et puis, c'est vrai que j'ai pensé... Plus forcément, mais dans des travaux plastiques au tout début, j'ai beaucoup travaillé sur la Révolution française aussi. J'ai eu à un moment une fascination, non pas morbide, mais pour la décapitation, d'une manière générale, autour du mythe de Méduse, et puis l'idée aussi que peut-être la...
De la Révolution, enfin voilà, ça c'est plutôt bien.
Et puis l'idée aussi que une guillotine, c'est comme un appareil photo, finalement. C'est-à-dire que c'est l'invention du gros plan, la guillotine. Clic, clac, voilà.
Coupé,
c'est l'invention du gros plan, du portrait. Il y a d'ailleurs, au 19e siècle, dans l'argot de la pègre, on appelait l'aide du bourreau, on l'appelait le photographe.
D'accord.
Ne bougeait plus, puis voilà, ça faisait le... Donc je me suis intéressé à ces choses-là, et puis quand on parle de guillotine, forcément la Révolution française, et puis je me suis plongé dans Michelet, et puis dans d'autres auteurs, et puis là ça a été... il y a quelques pièces plastiques qui parlaient de la Révolution française. J'ai même fait un petit court-métrage avec Danton comme figure. Donc tout ça, il y a quand même une certaine...
Il y a une inspiration plastique, donc déjà vraiment pour la Révolution, pour ces figures-là, cette déclinaison-là.
Tout à fait.
Alors, c'est marrant, ces têtes coupées, tout... moi, ça, quand je lis votre... Je parlais des références cinématographiques, on parlait du travail du montage et donc de Godard. Voilà, ça, c'est une des choses évidentes sur lesquelles vous avez travaillé pour associer le fond et la forme sur le premier. Mais moi, quand je vous lis, ce n'est pas un Godard que je pense plus sur le plan formel, même s'il y a ce travail de montage qui peut, lui, me renvoyer même à Diga Vertov avant lui, mais plutôt à Méliès, en fait, avec ce côté très, très facétieux, très des tours de passe-passe, avec ces jeux sur l'espace-temps, et qui fait qu'au sein d'une même phrase, on peut se retrouver, pas savoir comment on a fait pour se retrouver à ce lieu, ou ce temps totalement différent, pas vu comment ça s'est passé, avec ce côté très souriant de votre part, avec un jeu, quand même.
Oui, Méliès, ça a été une grosse influence dans mon travail plastique aussi. Méliès, c'est un des premiers aussi avec le trucage par substitution, le type qui jongle avec sa tête. Il y a un petit film de Méliès qui s'appelle Le décapité récalcitrant, tout un programme. Il y a le côté magique aussi chez Méliès. Et puis, une autre source d'influence, c'était ce qu'on appelle le pré-cinéma, c'est-à-dire tout ce qui sont les lanternes magiques, le praxinoscope, tout ce qui aboutit au cinéma de la fin 18e ou à fin 19e, en particulier au moment de la Révolution aussi, ou juste après la Révolution. Avec quelqu'un comme Robertson, qui projetait des choses sur des fumées, qui faisait réapparaître Marat, sa baignoire. Donc Méliès, oui, ça a été une influence. Même si en revoyant récemment des films, il y a un côté un peu... C'est vraiment du théâtre filmé aussi, on est dans une frontalité. Mais c'est vrai qu'il y a deux voies du cinéma, il y a d'un côté Lumière, qui serait plutôt le documentaire, et Méliès, qui est l'ouverture vers la fiction. Mais Méliès, c'est tout à fait juste, oui.
Bon, non, mais je tenais aussi à dire ça, parce qu'il y a... Ce côté fantasy, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on parle quand même de références qui peuvent être très sombres, qui peuvent être très violentes. On parle de décapitation. Et donc, à ceux qui vous ont jamais lu, on pourrait se dire waouh, une œuvre. Alors qu'il y a quelque chose d'extrêmement joyeux, en fait. Il y a une tonalité qui est plutôt de l'ordre de la mélancolie que de la violence. Et là, c'est une mélancolie souriante. Il y a quelque chose comme ça de. C'est une sorte de saudade, mais de saudade très ligérien. Je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais oui, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Ça. Une saudade ligérien.
Thierry Froget, le saudade ligérien.
Oui, vous avez raison. Il y a déjà, j'éprouve une certaine jubilation quand même à écrire ces livres et puis à croiser des personnages réels, des personnages fictifs, à traquer les coïncidences, les rencontres improbables. Et la littérature permet de développer toute... tout cet imaginaire et toute cette fantaisie. Et il y a une dimension indéniablement mélancolique dans mon travail, puisque c'est lié aussi d'ailleurs à la photographie, et c'est lié au rapport au temps et à l'histoire. Mais il faut que cette mélancolie soit aussi joyeuse, et qu'il y ait un peu de détachement, de distance, d'humour, que le j'ai pas du tout envie d'écrire des textes un peu avec des mots d'ordre, avec une forme de pesanteur, quoi. Il faut, puisque quand on traite de grands moments historiques, de grandes figures, il faut avoir un peu de légèreté, sinon ça de. Enfin, je.
Oui, c'est même d'une grande fluidité. C'est même ça le côté, le tour de passe-passe, parce que quand on réfléchit, quand on essaie de résumer, c'est impossible d'ailleurs de résumer vos livres justement, mais voir vous comment le déroulé se passe, justement. On voit tout le travail, le plaisir qu'il y a dans la finition pour que ces choses-là se passent avec cette fluidité-là.
Oui, alors ouais, moi, je ne sais pas s'il y a toujours cette fluidité, mais ce mot de fluidité m'intéresse beaucoup, oui, qui renvoie aussi à des métaphores liées aux fleuves. On parlait de.
Et bon, on va pouvoir parler des lieux, parce que ça, vous parlez des fleuves. Les fleuves, les îles sont extrêmement présents, notamment celle de Chalonne en particulier, mais pas que.
Voilà, Ibiza, dans le dernier, qui est un peu moins à la mode que l'île de Chalonne.
on avait un peu de Cuba juste avant.
Oui, un peu
on
de
avait
Cuba, il y a l'île d'Elbe aussi dans le premier. Enfin, donc, oui, effectivement, les îles m'ont toujours intéressé. Premièrement parce qu'effectivement, moi, j'ai grandi près d'îles de Loire, qui étaient des terrains de jeux enfants ou adolescents plus tard. Et puis il y a cette idée de Robinsonnade, de Robinsonnade, et puis aussi l'île, c'est le lieu de l'utopie.
D'accord.
L'utopie, c'est l'île qu'invente Thomas More dans son livre au XVIe siècle. Une île, on peut inventer, effectivement, comme Danton le fait dans mon premier roman, une république de l'île. C'est le lieu aussi de l'utopie historique, et en même temps le lieu aussi de l'uchronie. On peut réinventer l'histoire. Et puis les îles, ça fonctionne souvent aussi par. Il y en a plusieurs, et là, ça devient les archipels. Et ça m'intéresserait que ces romans puissent. J'aimerais bien que ces romans puissent un peu fonctionner comme des îles d'un même archipel qui se répandent.
Oui, bah vous tissez de toute façon des liens de livre en livre. C'est comme si vous semiez dans chaque roman un peu des graines pour le prochain. Il y a quelque chose de cet ordre.
Tout à fait, oui. Et là, je continue avec les îles, parce que là, j'ai un projet qui serait de. Travailler autour des îles bretonnes que Jean Epstein, le cinéaste, a filmé à la fin des années, au début des années 30 en particulier. Ouais. Donc c'est Ouessant, Saint, Édic et puis Belle-Île. Et donc j'ai tout un projet de travail sur ces îles dans le cinéma de Jean Epstein.
Joli projet. Mais en général, vous partez. De toute façon, c'est une littérature qui nous amène très loin. Et vous vous débrouillez tout le temps pour nous ramener à Chalonne. Alors, Chalonne, vous l'avez dit, il y a quelque chose de votre enfance, là. Mais je voulais savoir, justement, est-ce qu'il y a quelque chose comme une sorte d'ancrage, là ? Et pourtant, on a ce besoin d'aller très loin. Alors, est-ce que cet ancrage, quelque chose de votre enfance, alors que ce n'est pas du tout du récit de soi, vous n'êtes pas du tout dans le récit de soi ?
J'espère pas.
Mais par contre, on ne peut que constater ça, voilà, cette envie, ce plaisir. Alors justement, est-ce que c'est un plaisir ou est-ce que, justement, c'est de l'ordre du besoin, un besoin d'ancrer sur du connu et en plus sur votre enfance pour mieux partir ?
Effectivement, c'est un lieu qui a compté pour moi dans mon histoire personnelle, Chalonne, où il y avait une maison familiale au bord de la Loire, où, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, j'avais la chance avec mes cousins de voir des oncles qui s'occupaient de nous, et donc on avait une petite salle de théâtre où on faisait du théâtre et on faisait surtout beaucoup de petits films Super 8 à la Méliès, avec des trucages, etc. Donc ça comptait évidemment beaucoup dans ma formation. Et c'est vrai que même dans mon travail de plasticien, la Loire était toujours assez présente. Et c'est assez naturellement que dans le premier roman, j'ai imaginé. Et puis, c'est compliqué d'écrire sur des lieux qu'on ne connaît pas forcément. Courbet, qui intervient dans le deuxième roman, Les Nuits d'Ava, disait « Je connais mon pays, alors je le peins. Enfin, » Donc il y avait quelque chose comme ça. Quoi. Même si dans les deux romans suivants, on est moins à Chalonne. Mais ça reste, effectivement, on y revient, ça reste...
Oui, il y a quelque chose de l'hommage aussi. On sent qu'il y a, en tout cas, vous faites... Il y a des hommages à des personnes que... voilà, qui vous sont... Des lieux ou des personnes qui vous sont chères. Voilà, quand même, ce n'est pas votre vie, mais justement... Bon, pour tout vous dire, justement, Chalonne, depuis que je vous ai lu, je me suis dit, il faut que j'y aille. En plus, on est à 1h15 de là. Et donc, j'y suis allé il y a peu de temps, là, il y a quelques semaines. C'était le jour du printemps, c'était magnifique. C'était Voilà. Très calme, j'étais très heureux de voir que c'est assez peu constructible en fait. Le résultat, c'est très préservé, c'est très agréable. Et ça m'a permis de voir que le Lénine Café existait bien.
Oui.
Et c'était une idée incroyable, ça. Et ça, je pensais que c'était une idée incroyable de romancier de votre part. En fait, c'était visiblement un magnifique hommage.
Oui, c'était un lieu que j'ai pas beaucoup fréquenté, moi, pourtant. Mais quand j'imaginais donc Ariane, qu'est-ce qu'elle allait faire sur cette île en sortant de prison à cause de ses activités gauchistes, je me suis dit, il y a Lénine Café qui existe, personne ne va y croire. Et comme dans le roman, je mêle constamment fiction et réalité, pour que les plus grandes inventions passent, il faut aussi... et plein de gens m'ont dit, mais non, ça, on est sûr que c'est une invention. Et non, donc si ça existe, ça veut dire que le reste existe aussi, que Danton n'a pas été décapité. C'est élémentaire. Enfin, voilà, il y avait cette idée-là, quoi. Et c'est tellement improbable d'imaginer un café dans une île de Loire avec des reliques de l'ex-Union soviétique, avec des bustes de Lénine. Je trouvais ça, surtout dans cette dimension politique, et en même temps, il y a une forme d'humour aussi, quoi. Enfin, c'est ce lieu improbable, un mausolée pour Lénine. Voilà, ça me... et ça correspond pas à Chalonne.
Oui, bien sûr.
Chalonne, ouais, à ma connaissance, Chalonne-sur-Loire n'est pas un bastion bolchevique. ou alors, peut-être que Chalonne a beaucoup changé depuis que j'ai passé mon enfance. Mais... non, c'est vrai que c'est un lieu important. C'était le lieu où mes grands-parents vivaient. Voilà, donc c'est un lieu qui a beaucoup compté. Oui.
D'accord, oui, parce que je vois qu'il a. J'ai pu voir, donc là on le voit encore, on voit sa devanture, on voit la porte, on voit tout ça, donc on voit qu'il a été vendu, mais il est encore possible de le voir.
La fondatrice est décédée en fait, il y a un an je crois,
donc, d'accord.
Je ne sais pas ce qui va devenir de ce lieu.
D'accord, mais le lieu je crois qu'il est mis en vente, mais j'ai pu voir ça, parce que résultat je me suis renseigné, mais il a été mis en vente 2 mois avant la sortie de votre livre, donc vous l'avez vraiment accompagné jusqu'au bout ce lieu.
Ouais, alors c'était ça a été un peu troublant pour moi. Je ne connaissais pas bien.
D'accord. La fondatrice.
Oui, la fondatrice. J'ai eu un échange avec elle pour une émission de radio à distance sur comment Lénine Café avait aussi été présent dans la littérature. Et j'étais en train d'écrire le roman Et pourtant ils existent quand j'ai appris son décès. Et j'étais en train d'écrire l'enterrement d'Ariane, qui est un personnage, ils n'ont rien à voir, mais Ariane, qui dans mon roman, aurait inventé le Lénine Café. Il n'y a rien à voir dans leur biographie respective, mais c'était un peu troublant, le moment où la réalité et la fiction se rejoignaient assez tristement.
C'est là, mais enfin, vous avez réussi justement à faire quelque chose de beau, justement, en termes d'hommages, mais ça fait partie des hommages cachés, justement, qu'on découvre, qu'on va sur l'île, et on vous dit, là, il s'est passé quelque chose. Enfin, vous me faites penser, vous me ramenez à une phrase. Une des vôtres, de phrase, position confortable du chagrin sur l'échelle des joies terrestres. Ça, c'est dans votre recueil de poésie.
Ah oui, ce que je me disais.
Voilà. C'est du Froget, c'est du pur Froget. Ça, je l'assure. D'ailleurs, à propos de pur Froget, j'aimerais beaucoup qu'on puisse entendre du pur Froget par Froget. Est-ce que ce serait possible de.
Oui, vous voulez que je lise un extrait
Oui, s'il vous plaît.
L'histoire de ma famille. Est semblable à celle de beaucoup d'autres, avec sa nuée de secrets, de hauts faits, de misères, de silences, d'héritages et de querelles, de tragédies et d'épiphanies. Dans la famille des Bordes et des Pierres, l'engagement politique a toujours été la manière de savoir qui nous étions. Mon arrière-grand-père maternel, Florentin Borde, fut un militant anarchiste, milicien de la guerre d'Espagne, résistant et libertaire. C'est le héros de la famille auquel on ne peut pas toucher. Sa petite fille, ma mère Ariane, a contribué à entretenir sa légende. Elle fut la passeuse infatigable de sa chanson de gestes, quitte à laisser dans l'ombre ce qui ne pouvait se vérifier. Florentin est mort il y a 44 ans, Ariane il y a 1 an. Je suis la seule, maintenant, à pouvoir entretenir le trésor et le fardeau d'une mémoire qui s'évanouira avec moi. Quand je repense à cette histoire, un mélange de tristesse et de colère me gagne, et il m'arrive souvent de reprocher aux morts de n'avoir pas assez pris soin des vivants.
Merci beaucoup Thierry Froget. C'est précieux ces mots et les avoir par vous-même. Et, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble.
Merci à vous.
Et merci à tous pour votre écoute. C'était Lecture en tête à tête, aujourd'hui avec Thierry Froget. C'était une émission proposée par Lecture en tête, présenté par Alexandre Gosse et réalisé par Joël Flambard. L'émission s'ouvre avec Léo Ferré, elle se referme avec Jacques Brel. à qui vous empruntez en ouverture de votre dernier roman ces quelques mots de tirer de la chanson Jaurès, bien entendu. Jaurès, une chanson que l'on retrouve sur l'album Les Marquises. Tiens, encore une île. À bientôt à tous et d'ici la bonne lecture.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes? Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux. Quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?